du baril de pétrole a dégringolé. Nous verrons pourquoi avec Mathieu Ozano du Shift Project. Nous parlerons de la pollution du lac Kivu avec Josaphat Mwendambio qui tente de mobiliser les citoyens. Mais tout de suite, nous retrouvons les aventuriers de Juga d'Africa, le tour d'Afrique des innovations ingénieuses. Anne Barbary et Florian Hugues-Fouché sont partis depuis 6 mois. Ils ont traversé 10 pays africains et découvert une trentaine d'initiatives. Bonjour Anne Barbary.
Bonjour.
Vous êtes actuellement en Afrique du Sud où vous venez de passer plus d'un mois. Vous êtes au Cap, prêt à reprendre la route. Et vous avez découvert plusieurs innovations en Afrique du Sud qui changent le quotidien de ceux qui en bénéficient, puisque c'est ça, hein, l'état d'esprit de Jugad.
Oui, effectivement. L'état d'esprit, c'est d'arriver à répondre à des enjeux de développement urgents, de créer de l'emploi, de recréer une dynamique économique, tout en innovant avec des idées locales, des ressources locales et surtout de la main-d'œuvre locale.
Alors, du coup, vous allez nous en dévoiler quelques-unes. On va démarrer par PlayPumps. Expliquez-nous ce que c'est.
Donc, PlayPumps, c'est un système, un petit manège qu'on retrouve dans les parcs de jeux pour enfants souvent, donc qui est un carrousel. Donc, c'est une espèce de roue. Les enfants tournent autour pour donner de la vitesse et peuvent ensuite sauter dessus. Et donc, l'idée qui a été inventée en 89 par Ronny Stuyver, c'est d'utiliser ce carrousel pour en faire une pompe pour les enfants, une pompe à eau. Et donc, ce carrousel et ce PlayPumps est développé pour le moment dans 600 écoles en Afrique du Sud, au Lesotho et au Swaziland, et facilite en fait l'accès à l'eau potable pour les enfants dans les écoles.
Et c'est vraiment important, hein ?
Oui, c'est important puisque l'accès à l'eau potable et du coup à une eau saine de consommation est un vrai problème sanitaire. Hein. C'est l'OMS estime que 1 milliard de personnes n'a pas accès à l'eau salubre dans le monde. Derrière, c'est des énormes problèmes de maladies, notamment qui se propagent ensuite très rapidement. Et c'est aussi un problème dans les écoles parce que les pompes qui existent sont assez compliquées à actionner. Parfois, il faut beaucoup de force. Les enfants n'ont pas. Et du coup, ce manque de force et de puissance pour actionner les pompes font que les enfants parfois les cassent. Donc ce système qui leur permet de jouer, qui leur permet d'avoir accès à l'eau, est une vraie solution.
Et donc ce système s'appuie, système ingénieux, on l'a bien compris, hein, sur la fun théorie, donc la théorie de l'amusement finalement, puisque l'idée c'est de remplacer quelque chose de contraignant, de difficile, par un amusement.
C'est ça, c'est de faire changer les habitudes en initiant les gens à des nouvelles pratiques plus saines, plus écologiques, etc., via le jeu. Et ce qui est très intéressant avec PlayPump, c'est qu'en plus de faciliter l'accès à l'eau potable, de la rendre plus pratique, ça permet surtout de changer des habitudes, puisque la corvée d'eau est majoritairement une corvée féminine, c'est-à-dire que ce sont les femmes et les filles qui s'en occupent habituellement, et ce serait considéré comme une véritable insulte par les hommes de devoir gérer cette tâche. Et là, il s'avère que les petits garçons, avec les PlayPumps, n'ont qu'une envie, c'est d'être de corvée d'eau et d'aller chercher l'eau pour la classe. Donc c'est une vraie révolution à la fois dans l'innovation, mais aussi dans le changement des habitudes qui est en train de se mettre en place.
Et en plus, c'est facilement duplicable, on l'a bien compris. Ce chant, Anne Barbary, c'est vous qui l'avez enregistré puisque vous êtes allée à la rencontre de la communauté de Umlanga au nord de Durban.
Oui, c'est ça. Donc c'est une communauté qui est très reculée dans un endroit magnifique, pleine de collines toutes vertes, mais qui reste un township, donc habité essentiellement par les communautés noires en Afrique du Sud autour de Durban. Et donc cette communauté utilise le système des Wonder Bags que je suis allée découvrir dans cette région.
Alors qu'est-ce que c'est qu'un Wonder Bag ?
Donc c'est une sorte de sac isotherme qui est fabriqué à partir de la mousse récupérée qu'on peut trouver par exemple dans les canapés ou les fauteuils. Et c'est un système qui a été créé en 2008 par Sarah Collins à Johannesburg, qui en avait marre en fait des coupures d'électricité à répétition qui bloquent régulièrement la vie des Sud-Africains. Elle s'est rappelée que sa grand-mère, quand elle était jeune, enroulait les marmites dans lesquelles elle faisait ses ragoûts dans des grosses couvertures pour maintenir la chaleur à l'intérieur et du coup permettre une cuisson lente sans avoir d'apport d'énergie. Donc le principe est exactement le même, c'est-à-dire que le Wonder Bag va conserver la chaleur à l'intérieur de la marmite. Une fois que, disons, le ragoût, en tout cas ce qui est mis à cuire, a atteint le point d'ébullition. Et ensuite, la cuisinière a juste à le mettre à l'intérieur, fermé, laisser le temps de la cuisson, c'est-à-dire de 1 heure à 5 heures, peu importe. Et le ragoût va continuer de cuire tout seul dans son Wonder Bag.
Et là aussi, les enjeux derrière sont extrêmement importants pour lutter contre les coupures de courant, bien entendu, mais aussi en termes de santé et de préservation de l'environnement.
Oui, tout à fait, puisque alors une grande partie des Sud-Africains a accès à l'énergie, à l'électricité chez eux. Néanmoins, certains continuent de cuisiner à base de feux de bois, et ces feux sont extrêmement nocifs sur la qualité de l'air intérieur. C'est-à-dire qu'ils polluent énormément l'intérieur des maisons, et d'autant plus que ces femmes ont souvent des enfants en bas âge qui restent à côté d'elles quand elles font la cuisine et qui ont justement le nez pile au niveau des fumées, et il y a énormément de soucis de santé sur les petits et sur les enfants liés à ces fumées nocives.
Et les Wonder Bags sont vendus selon le principe buy one, give one, comme nous l'explique John de Buffalo, le directeur financier que vous avez rencontré.
Nous avons une entreprise lucrative et une fondation. Nikki est la seule salariée de la fondation. Pour chaque Wonder Bag vendu dans les pays développés, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, un autre est donné dans les pays en développement. Et c'est le travail de Nikki de s'assurer que ces sacs sont distribués dans des communautés qui en ont réellement besoin. L'important pour nous est de rester dans un système d'échange et pas seulement de dons. On ne veut pas que les sacs soient juste donnés aux communautés. Les bénéficiaires doivent participer aux ateliers de sensibilisation, monter une équipe pour s'assurer que chacun utilise son Wonder Bag correctement. Ils doivent aussi répondre à des critères de revenus, travailler dans la solidarité ou diriger une crèche par exemple. Les dons de sacs sont donc liés aux ventes aux États-Unis. Bien sûr, nous vendons aussi des Wonder Bags en Afrique du Sud, mais seulement aux personnes plutôt aisées, qui ont les moyens de les acheter. Beaucoup de Sud-Africains ne peuvent pas se le permettre. C'est pour cela que Nikki identifie les bons partenaires locaux qui nous aident à distribuer les Wonder Bags. Voilà, en résumé, l'histoire de la distribution des sacs.
Et ça marche bien, le Wonder Bag, Anne-Barbarie ?
Eh bien, écoutez, j'ai pu tester en tout cas la cuisine que ces femmes ont faite à partir des Wonder Bags. Les marmites étaient encore chaudes. La fumée est bien sortie lorsqu'elles ont ouvert les marmites. Et en tout cas, la cuisine était très bonne. Donc, a priori, ça fonctionne très bien.
Et l'idée, c'est que ils en vendent de plus en plus. Il y a des perspectives de développement assez importantes.
C'est ça. L'idée, c'est qu'ils puissent développer les ventes sur les pays occidentaux, donc les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la France, etc., qui permet derrière de pouvoir donner des Wonder Bags aux communautés qui, elles, n'ont pas les moyens d'acheter ce système.
Merci beaucoup, Anne-Barbarie, pour toutes ces découvertes. Vous allez donc quitter l'Afrique du Sud et la semaine prochaine, destination le Mozambique.
Tout à fait. On reprend la route après une longue étape en Afrique du Sud pour aller découvrir les innovations du Mozambique, pays qui va être assez différent étant donné qu'on rentre dans le monde lusophone.
Eh bien, en tout cas, nous continuerons à vous suivre dans ces pas du vent. Et si les auditeurs qui nous entendent veulent vous suivre aussi en images, ils peuvent aller sur votre site internet www.djougad-africa.fr.
C'est pas du vent sur RFI.
Préférence des services qui nous inspirent et des confiances.
Et par ces autorités, c'est les chanter pour qu'elles comprennent que plus jamais nous ne voulons pas accepter, assister insensible et impassible par rapport à la dévastation d'un lac aussi important comme les nôtres. Trop, c'est trop.
Il est temps de faire quelque chose. Il est temps d'agir.
Bonjour Josaphat Mouendambio.
Bonjour madame.
Vous avez créé il y a 4 ans l'association Bukavu Move parce que vous vous mobilisez pour défendre le lac Kivu et vous essayez de mobiliser les citoyens qui vivent autour de ce lac en République démocratique du Congo et autour, hein, aussi au Burundi et au Rwanda. Alors expliquez-nous quelles sont les actions que vous essayez de mettre en place.
Mais en fait, l'association Bukavu Move, à la base, elle était créée pour la promotion des artistes. Et pour l'instant, l'idée pour moi, parce que je suis aussi environnementaliste de formation, j'ai fait l'environnement comme formation à l'université. Et donc, j'ai pensé effectivement qu'il y avait des possibilités de coupler l'art et l'environnement. Et j'ai compris que c'était un duo très, très, très intéressant. C'est à ce moment-là que j'ai essayé de faire la vidéo d'abord sur l'écosystème de la ville de Bukavu. Et les premiers jours, j'ai changé de ligne parce que j'étais horrifié parce que ce que j'avais vu dans une rivière qui charriait tous les déchets de la ville de Bukavu vers les fonds du lac. Et du coup, j'ai décidé de faire un film sur le lac Kivu au lieu de faire sur la biodiversité de la ville de Bukavu.
Alors, expliquez-moi justement quelles sont les pollutions que vous avez pu constater sur le terrain qui touchent aujourd'hui le lac Kivu comme type de pollution.
Le lac Kivu est touché par trois types de pollution qui sont majeures. C'est notamment la pollution par l'activité humaine, parce qu'il n'y a quasiment pas de poubelle à Bukavu, donc tout finit dans le lac. Il y a le deuxième type de pollution, c'est les constructions anarchiques. Il y a une loi même qui défend la construction sur les 10 derniers mètres des rives, mais qui n'est jamais mise en application. Donc, les constructions ont tendance à repousser les eaux jusqu'à plus ou moins 15 mètres. Les troisième type, et les plus dangereux pour moi, c'est la déforestation du bassin versant du lac et la rivière Ruzizi, qui est son déversoir, sur laquelle d'ailleurs est érigée la centrale hydroélectrique qui dessert la ville de Bukavu, Goma, le Rwanda et le Burundi. Ça, il y a un cycle en fait sur cette déforestation qui fait que à partir du moment où il y a plus de racines qui fixent le sol sur le bassin versant, donc tout le sol glisse vers les fonds du lac, et là la boue même qui est dans les fonds du lac commence à obstruer la centrale hydroélectrique. Et à ces moments-là, ils sont obligés d'arrêter les machines pour dégriller. Et ça ramène encore à la surutilisation du bois.
Oui, parce que quand il n'y a plus de courant, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher du bois pour avoir de l'énergie.
Exactement.
Donc, vous êtes conscientisé parce que vous avez fait des études à l'université sur l'environnement. Mais comment réagissent les personnes autour de vous que vous essayez de sensibiliser?
Là, on a commencé la campagne avec tous les copains artistes qui ont accepté de travailler bénévolement sur cette thématique. Et donc, on vient de réaliser un court film de 17 minutes qui est titré « Kivu, un lac laissé pour compte ». Il y a aussi les amis danseurs qui se sont joints à nous pour faire la danse du lac Kivu. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un rythme commun sur lequel ils dansent tous. C'est un rythme typique congolais, mais au final, qui est dansé par les trois pays. Donc, la danse traditionnelle rwandaise, la danse traditionnelle congolaise et burundaise. Et donc, on essaye de lancer deux types de campagnes progressivement. On commence par la première. La première qui est celle qui révolte la population et qui dit non à ces trois types de pollution dont j'ai parlé avant. Et la deuxième, elle sera appelée, c'est en swahili, ça s'appelle Tujenge Sasa. Tujenge Sasa, ça veut dire construisons maintenant. Si on est déjà conscient qu'on a détruit le lac, qu'on continue à les détruire, alors on agit ensemble. C'est plus le moment où la population dit les gouvernants ils ne font rien, alors nous aussi on ne fait rien. Non, ce n'est plus le moment de se jeter les pierres. Gouvernants et gouvernés, on agit ensemble. Tujenge Sasa, construisons, reconstruisons maintenant. Et donc la deuxième campagne, elle ne sera plus révolutionnaire pour révolter les gens. Tujenge Sasa va consister à faire des actions communes. Mais comme je disais toujours, via la musique et la danse. De là, si on est tous d'accord qu'on est révolté, on n'est pas content de ce qui se passe par rapport à la situation environnementale du lac Kivu, alors on passe à l'action.
Alors pour conjuguer justement danse, concert et action, vous avez eu cette idée de créer des concerts au bord du lac Kivu où en fait les gens viendront en payant avec les déchets qu'ils auront ramassés, notamment les déchets plastiques parce qu'il y en a beaucoup dans le lac.
Ben en fait, la deuxième campagne, Tujenge Sasa, elle a deux phases. La première phase, ça sera des flash dance dans les rues. On met du matériel sur une pick-up et les artistes aussi derrière après. Mais ils débarquent à un endroit, ils commencent à danser avec la musique. Sauf qu'il y a des slogans qui sont lancés direct et qui vont être chantés par ceux qui viennent voir la danse. Et après, on va passer à l'action dans le même rond-point. Et donc, ça veut dire ramasser les déchets qu'il y a là-bas et les mettre dans un camion et partir avec. Ça va se faire à Goma, à Bukavu, à Kigali et Bujumbura.
À partir de quand?
Et c'est à partir de ce mois de janvier. Ouais. Et la deuxième phase, qui est la plus compliquée, là, il faut avoir des moyens sûrement pour le faire, c'est celle que nous avons appelée le bateau de l'arbre. Le bateau de l'arbre, ça veut dire qu'on met des plantules d'arbres sur le bateau, les musiciens leurs instruments, les danseurs aussi, sur le même bateau. Et ça sera précédé d'abord par une étude des textures du sol par des agronomes, sûrement, pour savoir quelles sont les essences qui peuvent pousser à tel endroit, menacées par les érosions. Et donc, on va trouver ces plantules. Il y a déjà certains partenaires qui nous ont dit qu'ils pouvaient nous apporter les plantules. Et donc, on arrive à un endroit, on installe nos matériels, on commence à jouer un concert le soir. On parle avec la population locale et avec cette population qui est venue suivre le concert, on va dans la colline pour replanter les arbres.
Alors ça, c'est ce que vous aimeriez faire donc à terme, dans la deuxième phase. Pour l'instant, vous cherchez des financements pour cela.
Exactement. Et je pense que les flash dance va nous aider aussi à recouvrer quelques moyens localement. Et nous savons après comment ça se passe chez nous, dans notre pays. C'est toujours très difficile de convaincre les gens de toucher dans leur poche. Déjà que le gouvernement lui-même, il considère que nous lui forçons la main. Donc forcément, on ne peut pas compter sur les gouvernements, on peut compter plutôt sur des particuliers. Et ça, c'est toujours assez compliqué dans les pays comme les nôtres.
Et juste avant de se quitter, on va donc écouter l'une de ces chansons qui va servir à faire les flash dance. Laquelle ?
Les larmes du pêcheur. Et cette chanson, elle parle un peu de comment le pêcheur considère le lac dans quelques années. C'est son parcours, en fait, son parcours sur le lac, sa vie sur le lac, depuis quelques années, depuis il y a 10 ans et maintenant, et il ne sait pas, son avenir est sombre. Donc l'avenir du pêcheur s'obscurcit du jour au lendemain. Voilà. Et donc c'est les pêcheurs qui pleurent.
Merci Josaphat Mwendambio.
Merci beaucoup Madame Anne-Cécile Bram.
Kutupo chafu ndani ya Lac Kivu. Majengo machafu kando Lac Kivu. Kukata miti kando Lac Kivu. Ayo oh oh oh. Ayo oh. Che che che. Watu wakipigana mazingira njo inalipa. Wakiuzisha ovyo viwanja ya lala zinakosa. Uchafu wote ndani la Kivu wanajaza kwa majengo ya upo. Na si vijana twakata hatutaki tena. Oh oh oh. Nous disons na na na. Yeah yeah yeah. Ayo
Le baril de pétrole a été divisé par 2 depuis l'été dernier. Un baril, soit 159 litres, vaut aujourd'hui aux alentours de $50. Mathieu Ozano est chargé des affaires publiques et de la prospective au Shift Project, un think tank qui accompagne les entreprises et les institutions publiques dans leur transition énergétique. Il nous explique les causes de cette baisse soudaine et ses conséquences sur l'environnement.
On est sur un marché, donc il y a des facteurs qui ont trait à l'offre et d'autres à la demande. Côté offre, on a une évolution très spectaculaire à la hausse de la production américaine de pétrole qui renaît un peu de ses cendres grâce au pétrole de schiste. Donc c'est une nouvelle forme de pétrole dit non conventionnel dont la production a augmenté de manière très spectaculaire ces dernières années. Côté demande, on a une croissance mondiale qui est à tonnes ou en tout cas plus faible que ce à quoi on pouvait s'attendre. Donc une demande plus faible et une offre abondante, ça donne ce résultat.
Une demande plus faible qui est due notamment à la crise économique en Europe et à une baisse de la croissance chinoise.
Oui, oui, tout à fait. Alors plus précisément, c'est une croissance de la demande moins rapide que ce à quoi on pouvait s'attendre. Le monde consomme toujours davantage de pétrole. Simplement, cette hausse de la consommation est plus lente que ce à quoi on pouvait s'attendre.
Alors, les pays pétroliers traditionnels auraient pu réagir en fermant un petit peu les vannes, mais ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. Pourquoi ?
C'est une guerre des prix. C'est une guerre des prix. L'évolution, la croissance de la production américaine prend des parts de marché à d'autres producteurs, notamment aux producteurs de l'OPEP et en premier chef à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite aurait pu prendre la décision de fermer les vannes en coordination avec l'ensemble des pays de l'OPEP. Elle n'a pas choisi de le faire parce que elle ne veut pas perdre de parts de marché. Et depuis, c'est-à-dire cette réunion de l'OPEP qui a eu lieu au mois d'octobre, depuis cette non-décision, en fait, cette décision de ne pas fermer les vannes, on assiste à une guerre des prix de tout le monde contre tout le monde. Et ça a pour conséquence de tirer encore plus fortement les prix à la baisse.
La Russie joue aussi un certain rôle.
Oui, la Russie, il y a eu des discussions entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Vladimir Poutine n'a pas souhaité lui non plus fermer les vannes. C'est l'annonce d'une production record pour la Russie au mois de décembre qui a relancé la spirale vers la baisse des cours du baril début janvier.
Donc on a bien compris, plus d'offres que de demandes. Alors est-ce que ce prix faible du baril de pétrole, c'est une bonne ou c'est une mauvaise nouvelle pour l'environnement ?
À court terme, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'environnement et pour les émissions de gaz à effet de serre, bien entendu. Si on donne davantage de carburant à la société industrielle, ben ce carburant est consommé. Un prix du baril très bas, ben ça a des conséquences pour les alternatives au transport à base de pétrole. Ces alternatives étaient déjà compliquées à vendre politiquement et économiquement lorsque le baril était encore à 110$. On imagine bien que maintenant qu'il est à 50, ces alternatives sont plus difficiles à encourager que jamais.
Oui, parce que ça se traduit tout simplement par une baisse du prix de l'essence ou du diesel à la pompe.
Oui, les automobilistes sont contents. Tous les automobilistes vont pouvoir cette année mettre de côté quelques centaines de dollars ou d'euros.
Ah, est-ce que vous constatez déjà des projets dans le domaine du transport qui représentent à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial qui auraient été annulés ou suspendus ?
Alors c'est un peu tôt pour voir ce genre d'effet très clairement. Par contre, c'est évident que l'incitation à faire du covoiturage, à développer des lignes de chemin de fer, toutes sortes de solutions alternatives sont sapées politiquement et économiquement.
C'est-à-dire l'argument du portefeuille ne tient plus.
Voilà.
Et est-ce que ça peut avoir des conséquences aussi sur, par exemple, le recyclage des matières plastiques ?
Oui, bien sûr, les recycleurs, les industriels du recyclage en Europe se font laminer, en particulier ceux qui sont spécialistes du plastique, puisque le plastique est un dérivé d'hydrocarbures. C'est déjà un business qui est difficilement rentable. En général, il a besoin d'aide. Là, aujourd'hui, cette division brutale par deux du prix du baril, c'est une catastrophe pour toute l'industrie du recyclage. Il y a une autre conséquence, c'est que l'incitation à délocaliser la production industrielle en Chine, par exemple, est renforcée, puisque le tarif, le prix du fuel pour faire marcher les porte-containers, les cargos, également est à la baisse. La première incitation à la délocalisation, c'est la faiblesse des prix des carburants marins.
Or, si on essaye de trouver quand même quelque chose d'un peu positif dans cette baisse du prix du pétrole, est-ce qu'on peut pas se dire que, par exemple, l'exploitation des sables bitumineux au Canada ou du pétrole de schiste aux États-Unis va devenir non rentable ?
Alors c'est pour ça que je disais que ce prix du baril était une mauvaise nouvelle, en tout cas à court terme. Il va y avoir une deuxième vague d'effets. On commence à la voir déjà. Les investissements dans les pétroles non conventionnels et extrêmes sont réduits très fortement ces jours-ci. Ce sont des pétroles qui ont besoin d'avoir un baril aux alentours de $100 pour pouvoir espérer avoir un niveau de rentabilité suffisant. Alors on peut parler des pétroles de schiste aux États-Unis qui sont à l'origine de l'évolution actuelle du marché. Il y a également parmi les grandes sources nouvelles de pétrole non conventionnel, il y a le sable bitumineux au Canada. On peut penser au pétrole ultra profond que l'on commence à exploiter au large du Brésil.
À quelle profondeur par exemple ?
C'est à plusieurs kilomètres sous la surface des flots. On pense aussi au pétrole, aux ressources de pétrole qu'on pourrait développer au pôle Nord. Toutes ces sources-là sont confrontées à de très graves difficultés de financement maintenant que le baril de pétrole a perdu la moitié de sa valeur. Effectivement, on peut considérer que c'est une bonne nouvelle. Mais je pense que les choses vont être plus compliquées que ça. Tout simplement parce que la première énergie de substitution au pétrole, ce ne sont pas les énergies renouvelables, ce sont d'autres formes d'énergie carbonée, le charbon ou le gaz naturel. Donc ce sont encore des sources d'énergie qui sont émettrices de gaz à effet de serre.
Alors évidemment, vous n'êtes pas devin, mais est-ce qu'on peut imaginer que ce bas prix du pétrole va perdurer dans les mois qui viennent, ou on peut assister à une hausse ?
Il y a des signes de récession grave pour le secteur pétrolier qui sont en train d'émerger, parce que, comme je viens de le dire, il y a énormément de projets industriels qui ne sont plus rentables. Donc les investissements dans le secteur pétrolier ont tendance à marquer un coup d'arrêt violent. D'ici à terme, cela aura nécessairement un impact sur les nouveaux projets qui permettent de compenser le déclin de la production de pétrole existante. La situation de l'industrie pétrolière, c'est celle d'une course sur un tapis roulant. Si vous arrêtez de courir sur un tapis roulant, vous reculez. Nous sommes à peu près à la mi-temps de l'âge du pétrole. On a exploité déjà à peu près toutes les grandes sources de pétrole faciles. Et aujourd'hui, pour compenser le déclin des sources matures de pétrole qui sont entrées en déclin, comme par exemple en Europe, la mer du Nord, dont les réserves s'épuisent, ou en Afrique, peut-être l'Algérie, peut-être le Gabon. On a énormément de sources de pétrole conventionnels qui sont à la limite de leur capacité de production, voire en déclin. Et pour les remplacer, il faut du pétrole non conventionnel. Beaucoup de pétrole non conventionnel. Donc si le financement des projets de ces pétroles non conventionnels chers s'arrête, on peut avoir à terme ce qu'on appelle le pic pétrolier, c'est-à-dire un déclin de la production mondiale de pétrole. Et là, on rentrerait en territoire complètement inconnu.
Mais là, on ne sait pas tellement à quelle échelle on se place.
La plupart des analyses convergent pour dire que on va avoir des difficultés au cours de la prochaine décennie pour maintenir cette production mondiale de pétrole, au cours de la prochaine décennie et peut-être même avant, c'est tout à fait vraisemblable.
Pour réagir ou témoigner sur ce qui se passe près de chez vous, écrivez-nous à cestpasduvent@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, hashtag cestpasduvent. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. On se retrouve samedi prochain. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres, et à samedi, même planète, même heure.